Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 2h de plus ici à Paris, 14h.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Branle-bas de combat après l'offensive commerciale américaine via des droits de douane astronomiques, plus 20% pour l'Union européenne, plus 34% pour la Chine. Les pays concernés, on va le voir aussi, entre promesses de riposte et appel au dialogue. La Hongrie claque la porte de la CPI. Budapest annonce son retrait de la juridiction et déroule le tapis rouge à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, visé par un mandat d'arrêt de la Cour. Pour Berlin, je cite, « c'est un mauvais jour pour le droit international ».
RFI.
À suivre aussi la fuite encore pour les habitants de Rafah à Gaza, évacués une nouvelle fois par l'armée israélienne qui accentue sa pression sur le Hamas. Le chef de la junte birmane à Bangkok en Thaïlande pour un sommet régional avec au programme la réponse au séisme meurtrier de vendredi dernier. Et puis la Coupe du monde féminine de foot, ça devrait se passer aux États-Unis en 2031 en haletant, puis au Royaume-Uni en 2035, les deux seuls candidats. Candidat retenu. Le journal des sports, c'est dans un petit quart d'heure.
Ils nous taxent, nous les taxons, le commerce selon Donald Trump.
La guerre des tarifs douaniers est donc déclarée avec ces surtaxes annoncées par le président américain pour les produits importés aux États-Unis. Il les a détaillées avec un tableau en main, 10% de plus pour tout le monde, puis un pourcentage pour chaque pays ou zone visée, plus 20% pour l'Union européenne, donc plus 34% pour la Chine, je vous le disais, plus 46% pour le Vietnam. Selon Donald Trump, cela va permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique.
Chers Américains, c'est le jour de la libération, attendu depuis longtemps. Le 2 avril 2025 sera à jamais gravé dans les mémoires comme le jour de la renaissance de l'industrie américaine, le jour de la reconquête du destin de l'Amérique et le jour où nous avons commencé à rendre sa richesse à l'Amérique.
Voilà, annonce donc du président Trump, c'est un coup de massue, on peut le dire, pour les partenaires des États-Unis. Les réactions s'enchaînent entre promesses de riposte et appels au dialogue. La Chine, par exemple, appelle Washington à annuler immédiatement ces mesures. Pékin dénonce le protectionnisme, l'intimidation, je cite, des États-Unis, tout en disant aussi maintenir la communication. L'Espagne vient de dénoncer une attaque unilatérale de l'administration Trump. On va revenir dans un petit instant sur les déclarations en France. En tout cas, c'est l'inquiétude un petit peu partout dans les milieux économiques et cette fébrilité, Nathanaël Vitran, se ressent sur les bourses mondiales.
Oui, Donald Trump avait fait de la bourse le baromètre de sa politique, promettant qu'avec lui, elle atteindrait des sommets. Et bizarrement, depuis quelques semaines, il n'en parle plus. Et pour cause, en un mois et demi, le Nasdaq, l'indice de référence aux États-Unis, a perdu 12%. Et ce n'est que le début. Sans attendre l'ouverture des bourses américaines ce jeudi, le dollar s'effondre sur les marchés asiatiques et européens face à l'euro, à la livre sterling, au yen, considérés comme des valeurs alternatives sûres, et punis aussi les grands groupes américains de la tech, bien mal récompensés de leur soutien appuyé à Donald Trump. Apple, par exemple, qui produit une grande partie de ses iPhones en Chine, chute de 7% hors séance. Et face aux craintes liées aux chaînes d'approvisionnement, Amazon, Microsoft, Meta et les autres devraient prendre le même chemin. D'autant que les GAFAM sont au premier rang, Charlotte, des entreprises qui pourraient être ciblées par la riposte européenne. Signe que les investisseurs anticipent une période difficile pour l'économie mondiale dans son ensemble. Eh bien, le pétrole plonge, la bourse de Tokyo enregistre une chute de 3% à la clôture et les bourses européennes sont toutes en net recul.
Nathanaël Vitran, on va voir ce que ça donne au niveau des bourses aux États-Unis. Pour l'Europe, on le rappelle, c'est 20% de nouveaux droits de douane. C'est un coup dur pour l'économie mondiale. Voilà ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne tout à l'heure, Ursula von der Leyen.
Depuis le début, nous avons toujours été prêts à négocier avec les États-Unis afin de supprimer les derniers obstacles au commerce transatlantique. En même temps, nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent.
Voilà, il n'est pas trop tard pour négocier, estime donc Ursula von der Leyen, propos recueillis à Bruxelles par Pierre Benazet.
En revanche, ni le Mexique ni le Canada n'apparaissent sur la nouvelle liste de Washington.
En fait, les deux voisins des États-Unis ont signé des accords de libre-échange. Donc, ils relèvent d'un autre régime. Mais ils vont tout de même encaisser, comme tout le monde, la hausse de 25% de surtaxes sur les voitures fabriquées à l'étranger. Et puis, il y a aussi la menace sur l'aluminium et l'acier. À Montréal, Nafia Liber.
Si le Canada échappait aux droits de douane réciproques, son premier ministre Mark Carney n'en tire aucun répit. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, il a dû suspendre sa campagne électorale pour répliquer aux menaces tarifaires de Donald Trump.
Dans une crise, ce qui est important, c'est de réunir et d'agir avec de la force.
Hier soir, il s'est réuni avec ses conseillers pour peaufiner la riposte, enjeu des représailles aux tarifs américains sur l'acier, l'aluminium, mais aussi sur l'automobile, une menace qui reste floue puisque plusieurs pièces des véhicules fabriqués au Canada proviennent des États-Unis. Mark Carney a par ailleurs indiqué que l'administration Trump envisageait de s'attaquer à d'autres secteurs comme la pharmaceutique ou le bois.
Il y aura une réponse.
À l'heure actuelle, le Canada a imposé des contre-tarifs de 25% sur un total de 60 milliards de dollars de produits américains et une coalition de syndicats réclame que ces revenus aident les travailleurs touchés.
Il y a déjà des coupes d'emploi.
Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.
Et on n'est pas capable de répondre adéquatement à ces travailleurs et travailleuses-là sur leur avenir.
Mark Carney a promis de les soutenir. Il doit consulter les premiers ministres provinciaux avant d'annoncer les détails des contre-mesures canadiennes plus tard aujourd'hui. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Et pour finir sur ce dossier en France, le président Emmanuel Macron va recevoir là cet après-midi les représentants des principales filières touchées, donc pêle-mêle aéronautique, industrie ou encore viticulture, réunion pour évaluer les dégâts en quelque sorte, c'est ça Victorien Villaume?
Oui, c'est ça, rendez-vous à 16h donc au Palais de l'Élysée. Dans 2 heures, le président réunit donc ses représentants et l'exécutif français donc semble-t-il veut montrer qu'il n'est pas pris au dépourvu, Charlotte. Nous sommes prêts à cette guerre, disait ce matin sur RTL la porte-parole du gouvernement Sophie Primas.
Il y a 2 ripostes qui sont prévues. Une première riposte qui est d'abord, qui sera efficiente à peu près à la mi-avril. Et puis, il y a un deuxième jeu de riposte qui sera probablement prêt à la fin du mois d'avril sur l'ensemble des produits et des services, les GAFAM par exemple.
Alors Sophie Primas précise qu'une discussion est en cours avec les pays de l'Union européenne pour arrêter la liste des produits américains visés. Il faut se serrer les coudes entre pays qui partagent les mêmes valeurs, analyse lui le député des Français installé en Amérique du Nord, Roland Lescure. Il était l'invité ce matin d'RFI.
Posons très vite des gestes politiques qui montrent qu'on est capable de se rassembler avec les démocraties libérales occidentales, ceux avec lesquels on a intérêt à montrer aux États-Unis qu'on est aussi fort qu'eux, parce qu'on est aussi fort qu'eux.
Un besoin d'unité d'autant plus grand que le gouvernement français reconnaît un coup dur porté à l'économie mondiale, européenne et française. L'industrie des vins et des spiritueux, par exemple, Charlotte, craint une perte qui pourrait atteindre 1 milliard d'euros.
Victorien Villaume, j'ajoute cette réaction du Premier ministre François Bayrou. Il a jugé que cette décision, ces nouveaux droits de douane, sont une immense difficulté pour l'Europe. Et une catastrophe aussi, dit-il, pour les États-Unis.
Et dans 10 minutes, on se penchera plus particulièrement sur les conséquences pour l'Asie, puisque les pays asiatiques sont très durement touchés par ces nouveaux droits de douane. Nous serons en ligne avec le président de l'Institut de Recherche Asia Centre.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui, est à Bruxelles, aujourd'hui au siège de l'OTAN. Le chef de la diplomatie a dénoncé une hystérie, je cite, autour d'un éventuel désengagement américain de l'Alliance Atlantique. Il assure que les États-Unis vont rester dans l'OTAN.
Tapis rouge et honneur militaire, la Hongrie accueille Benjamin Netanyahou en grande pompe et annonce dans le même temps son retrait de la CPI.
Oui, Budapest a lancé les démarches, c'est une procédure qui prend en général 1 an. Annonce alors que le Premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Florence Labruyère, on vous retrouve à Budapest, vous êtes en direct pour cette visite donc de Benjamin Netanyahou. La Hongrie pourtant est... Où était, on ne sait pas trop, pourtant un membre fondateur de la CPI.
Oui, elle était membre fondateur, absolument. Mais non seulement elle a bravé le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en recevant en grande pompe, vous l'avez dit, le Premier ministre israélien, mais cette fois, elle claque la porte de l'institution judiciaire. C'est ce qu'a annoncé ce matin le directeur de cabinet de Viktor Orban en postant la nouvelle sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas très étonnant, hein, parce que le gouvernement hongrois avait dénoncé à plusieurs reprises la Cour pénale internationale. Il jugeait cette institution politiquement biaisée. Et en novembre dernier, Viktor Orban avait vivement critiqué le mandat d'arrêt contre Netanyahou émis par la CPI. Il avait qualifié cette décision de cynique et honteuse. Et puis le gouvernement avait indiqué qu'il n'était pas obligé d'appliquer les décisions de la Cour parce qu'il n'avait pas promulgué certains documents liés au traité créant la Cour. Et puis Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche et comme le président américain dénigre ouvertement la CPI et qu'il a même imposé des sanctions contre la Cour en février, et que Viktor Orban s'inspire de tout ce que fait le président américain, eh bien ça y est, le pas est franchi. La Hongrie quitte l'institution. Elle est le troisième pays à sortir de la CPI après le Burundi et les Philippines. Donc la décision du gouvernement hongrois n'est pas une surprise, mais la façon dont cela a été annoncé est assez cavalière. C'est véritablement un bras d'honneur de Viktor Orban à la Cour pénale internationale.
Florence Labruyère, en direct de Budapest, la CPI depuis l'AE rappelle que la Hongrie reste tenue de coopérer avec la Cour. Gaza et la guerre sans fin. L'armée israélienne continue d'étendre ses opérations militaires dans le territoire pour faire pression sur le Hamas. Pas de répit donc dans les bombardements et dans le sud notamment Rafah est de nouveau vidée de ses habitants. Appelés à évacuer, certains étaient à peine rentrés et ont donc dû une nouvelle fois plier bagages, condamnés à errer dans l'enclave palestinienne. Témoignage recueilli par notre correspondant Ramiel Megari avec Samy Bourlifa à Jérusalem.
Des coups de marteau pour enfoncer des pieux dans le sol sec, planter sa tente là où c'est possible, au milieu des gravats. Les mains et le visage recouverts de poussière, Riyad et sa famille viennent de quitter Rafah pour Khan Younes. C'est la 9e fois qu'ils sont déplacés de force depuis le début de la guerre.
J'ai le sentiment que cette fois-ci, c'est la fin. Avec le reste de nos proches, on s'est dit adieu. J'ai également appelé mes filles pour leur dire adieu. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors le soir, avant de me coucher, je fais mes adieux à ma femme aussi.
Son épouse, Racha, est éprouvée par le trajet. La famille a fui à pied, le dos écrasé par le poids des matelas et des couvertures.
Nous avons tout accepté. Lorsque notre maison a été bombardée, on s'est dit, ce n'est pas grave, on peut camper sur ces décombres. Après tout, c'est chez nous. La bande de Gaza, c'est notre foyer, notre pays, dévasté et pauvre, mais c'est à nous. Alors qu'ils nous laissent en paix, ils peuvent s'acharner et nous bombarder, on ne quittera pas notre pays.
Israël prévoit de réoccuper un quart de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou plaide pour la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Le président américain propose de déplacer les Gazaouis en Égypte et en Jordanie, une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international. Ramiel Merali, Gaza, Samy Bourlifa, Jérusalem. RFI.
En Birmanie, le bilan du séisme toujours de plus en plus lourd. La junte a recensé plus de 3000 morts et les opérations de recherche se poursuivent. C'est très très compliqué, notamment pour accéder aux zones sinistrées. L'aide internationale a toujours beaucoup de mal à arriver sur place. C'est un gros défi logistique, Carole Izou.
Les secouristes birmans sont complètement dépassés par la situation. Dans certains endroits, comme dans la ville de Sageng, un tiers des bâtiments se sont effondrés, faute d'aide des autorités. C'est la population civile elle-même, sans équipement, qui s'organise pour commencer les travaux de recherche et de déblaiement. Des odeurs de cadavres en décomposition ont commencé à envahir les rues de la ville. Pourtant, si des délégations russes, chinoises et indiennes ont été admises à l'intérieur du pays, les secouristes des pays occidentaux ont bien du mal à obtenir les autorisations nécessaires pour rejoindre les zones affectées. C'est le cas de l'organisation Tanki, un groupe de secouristes français équipés de radars. Ils sont bloqués depuis 48 heures à l'aéroport de Rangoon.
À l'aéroport de Rangoon, ils nous ont accueillis des bras ouverts, vraiment. Le personnel de l'aéroport, ils nous ont accueillis dans le lounge depuis hier. On est très très très très bien accueillis, sauf que on n'a toujours pas les visas.
Mercredi 2 avril, les soldats birmans ont ouvert le feu sur une équipe de la Croix-Rouge chinoise, précisant par la suite qu'ils n'avaient pas été notifiés du passage du convoi. La junte craint que les armées rebelles, sous couverture de convois humanitaires, n'en profitent pour étendre leur position et gagner du terrain. En attendant, certaines populations n'ont toujours eu accès à aucune aide. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
Bangkok, où se tient un sommet régional qui réunit notamment les dirigeants de Thaïlande, donc de Birmanie, du Bangladesh, ou encore le premier ministre indien Narendra Modi. RFI 14-15.
Oh, tiens, voilà quelqu'un.
À Bagnères-de-Bigorre, les ours bruns continuent, ça vous surprend, continuent de se développer dans les Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. 96 individus détectés dans le massif l'an dernier, selon le décompte officiel. C'est plus, sachez-le, qu'en 2023. La population d'ours est en augmentation régulière ces dernières années. À ce stade, dit l'Office de la biodiversité, ce n'est pas garanti que la tendance se poursuive. Sans transition.
Merci Charlotte Hydrac. Bagnères-de-Bigorre, c'est chez vous, Thomas Saint-Léger, bonjour.
C'est vrai, bonjour Anne.
On va parler avec vous de l'actualité sportive. Et de football d'abord. On sait où se dérouleront les éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde féminine.
Aux États-Unis pour la première, au Royaume-Uni 4 ans plus tard, les candidatures américaines et britanniques sont les deux seules enregistrées pour ces éditions. Confirmation ce matin du président de la FIFA, Gianni Infantino. La prochaine Coupe du Monde féminine prévue en 2026-2027 avait déjà été attribué au Brésil.
Du football toujours chez les hommes et en Espagne d'abord, il y aura un classico en finale de la Coupe du Roi.
Le Real Madrid s'était qualifié mardi, le FC Barcelone l'a imité hier en gagnant 1-0 sur le terrain de l'Atlético de Madrid. C'est donc un nouveau duel entre Grande Espagne qui se profile le 26 avril prochain. On s'en lèche les babines, les joueurs aussi, le défenseur français du Barça, Jules Koundé.
On est encore en lice dans toutes les compétitions et nous sommes désormais en finale de la Coupe du Roi. On pense qu'on peut le faire, qu'on a l'équipe pour y parvenir, à condition de continuer à travailler comme on le fait depuis le début de la saison. Le Classico, c'est toujours un match particulier. Le Real est une équipe très dangereuse. C'est vrai que les deux premiers matchs se sont bien passés pour nous, mais on sait qu'ils vont tout donner. Nous sommes en confiance, nous jouons bien. Bien sûr, les titres sont très importants, mais je pense qu'on doit aussi mettre en avant notre manière de jouer et l'état d'esprit de l'équipe. Nous sommes vraiment un groupe. On l'a encore prouvé aujourd'hui et on le démontre depuis le début de la saison.
Jules Koundé avec Pierre Chaperon.
On connaît aussi l'affiche de la finale de la Coupe de France qui est prévue le 24 mai prochain.
Et c'est Reims qui rejoint le PSG. Les Rémois l'ont emporté 2-1 hier sur le terrain du Petit Poucet, l'AS Cannes. C'est la 4e finale de l'histoire du club champenois en Coupe de France. La première depuis 1977.
En Allemagne, la finale de la Coupe nationale sera assez déséquilibrée.
L'Arminia Bielefeld, club de 3e division qualifié en éliminant le Bayer Leverkusen, jouera contre Stuttgart, tombeur hier du RB Leipzig 3-1. Et puis en Italie, pas de vainqueur dans la manche allée de la demi-finale fratricide Milan AC Inter. Un partout, match retour dans 3 semaines.
En Angleterre, c'est le championnat qui est au programme en ce milieu de semaine.
La 30e journée, hier, Liverpool, le leader, a repris ses 12 points d'avance face à Arsenal en gagnant le derby de la Mersey face à Everton 1-0. Aston Villa, le futur adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, a parfaitement préparé son déplacement à Paris en gagnant 3-0 à Brighton. Et puis Manchester City a battu Leicester 2-0. City 4e, 2 places et 2 points devant Chelsea qui accueille ce soir Tottenham. Chelsea qui pourra compter bien sûr sur son milieu champion du monde Enzo Fernandez, arrivé il y a 2 ans. L'Argentin a vraiment franchi un cap cette saison. Confirmation de son entraîneur Enzo, lui aussi Maresca.
Enzo, depuis son arrivée, il progresse énormément. Il comprend beaucoup mieux le jeu. Au début, il a un peu souffert, mais maintenant, il fait toujours les bonnes choses. Il est toujours bien placé. Et c'est pour cela qu'il marque et fait des passes décisives. C'est parce que la plupart du temps, il est au bon endroit. Avec l'Argentine face au Brésil, on l'a vu, il était bien placé, il était dans la surface. Donc je suis vraiment content pour lui.
So happy for Enzo. Enzo Maresca avance Chelsea, Tottenham, coup d'envoi 19h, temps universel.
Merci Thomas de Saint-Léger, il y avait aussi du basket au programme, mais ça on en parlera ce soir.
RFI, le monde à midi.
On va revenir maintenant sur l'information des dernières heures, ces droits de douane fixés par Donald Trump au cours d'un discours savamment mis en scène durant lequel le président américain s'est réservé le droit d'attribuer des bons points, de désigner ceux qu'il a appelés les gentils, sans qu'il y ait pour autant le moindre lien avec le taux de taxes imposé aux différents pays. Bonjour Jean-François Di Meglio.
Bonjour.
Économiste, vous présidez l'Institut de recherche Asia Centre. Le coup est particulièrement dur pour la Chine, qui faisait déjà l'objet de 20% de droits de douane, auxquels il faut ajouter 34% supplémentaires. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, beaucoup d'observateurs préviennent que le président américain a bien la Chine dans le viseur, qu'à un moment ou à un autre, il va hausser le ton face à Pékin. C'est la première étape, selon vous ?
Oui, alors c'est déjà la deuxième étape par rapport à Trump 1, mais c'est aussi une continuité avec la politique américaine depuis que, rappelez-vous, Obama avait tenté de rallier tous les pays d'Asie et du Pacifique hors Chine pour faire un traité commercial. C'était déjà bien destiné à réduire le déficit que les États-Unis avaient avec la Chine. Donc l'étape 2, Trump fait suite à une politique assez continue maintenant. On est en train de revenir sur tout ce qui a fait les grands jours de l'OMC avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Donc c'est 25 ans d'histoire commerciale qui sont en train de s'achever.
Alors ces nouveaux droits de douane, ils concernent vraiment toute la région, près de 50% pour des pays comme le Laos ou le Cambodge. Est-ce qu'ils payent selon vous leur lien avec la Chine ?
Naturellement. C'est ce qu'on a appelé pendant quelque temps Chine plus 1. En fait, il y a eu deux phénomènes qui faisaient de ces pays les nouvelles vedettes, c'est-à-dire que, craignant des augmentations de droits de douane, les investisseurs chinois sont allés dans ces pays pour produire déjà à coût plus bas, naturellement, et puis aussi pour contourner la politique de droits de douane américaine. Et puis l'autre effet, eh bien, c'est naturellement que ces pays qui ont des taux de croissance intéressants, qui se relèvent assez bien du Covid, on a des taux de croissance entre 3 et 5%, attirent des investisseurs d'un peu tous les pays et redeviennent compétitifs. Donc c'est le Chine plus 1, c'est-à-dire que naturellement on ne peut pas omettre la Chine dans les relations commerciales, plus 1, c'est toute cette région-là, et souvent on a des investisseurs qui sont à la fois en Chine et dans ces pays-là, quand ce ne sont pas des Chinois eux-mêmes qui sont en Chine et dans ces pays-là.
D'ailleurs, personne n'échappe à ces nouvelles taxes dans toute la région, 36% pour la Thaïlande par exemple, je n'avais pas encore cité ce pays. Est-ce que c'est la fin de la relation plutôt privilégiée entre les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est, selon vous ?
Alors, quand on dit relations privilégiées, vous voyez bien qu'on dit deux choses à la fois. On dit relations commerciales, c'est ce dont on vient de parler jusqu'ici, et puis c'est quand même la relation géostratégique. Or, on imagine pas un instant aujourd'hui que les conséquences de cette guerre commerciale ou de cette nouvelle attitude commerciale des États-Unis puissent avoir un effet symétrique sur les relations géostratégiques, c'est-à-dire que les États-Unis ne seraient plus proches de ces pays qui ont toujours été le contrepoids pour les États-Unis à l'importance de la Chine dans la région.
D'alliés stratégiques encore comme le Japon ou la Corée du Sud, par exemple.
Mais oui, donc il y a un certain nombre de traités de défense, il y a un certain nombre de présences militaires américaines dans la région, il y en a naturellement en Corée et au Japon, et puis il y a régulièrement le contrôle que les Américains souhaitent faire de la mer de Chine du Sud, le passage du détroit de Malacca qui est extrêmement important, y compris pour l'approvisionnement en toutes sortes de produits finis pour des pays qui sont des alliés des Américains jusqu'ici. Donc il va y avoir à un moment ou à un autre un éclaircissement en réalité de ce bras de fer qui s'est mis en place. On y croit naturellement, on achète ce que nous dit Trump, il y a certainement une volonté de remettre les pendules à l'heure si on veut, mais on ne peut pas non plus renverser totalement la table comme il semblerait que Donald Trump souhaite le faire.
Alors, il existe des liens entre certains de ces pays. Est-ce que vous pensez que ce coût commercial pourrait contribuer à rapprocher, par exemple, la Corée et le Japon de la Chine ? On a vu il y a quelques jours que leurs ministres du commerce s'étaient rencontrés pour parler d'un accord de libre-échange.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, tout le monde est un peu en train de perdre la boussole. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. À quel moment est-ce qu'on retrouvera le Nord, si j'ose dire ? On ne sait pas. Mais vous faites allusion à effectivement une conversation sur le commerce entre ces trois pays, la Corée, le Japon et la Chine. Ce sont des partenaires extrêmement importants. La Chine est le premier partenaire du Japon. Et puis, par ailleurs, vous avez le RCEP. Le RCEP, c'est Regional Commercial Economic Partnership. C'est quelque chose qui est entré en vigueur il y a 3 ans maintenant et qui regroupe un certain nombre de pays, dont la Chine, mais pas les États-Unis, et qui voit son importance dans le commerce international de plus en plus important. Le seul pays de la région qui ne soit pas inclus, c'est l'Inde. Et la Chine profite naturellement de ce rapprochement commercial entre tous ces pays. Donc, ce que risque, si on peut dire, la politique américaine dans ce jeu, c'est effectivement de jeter dans les bras de la Chine, qui est déjà très puissante commercialement dans la région, un certain nombre de pays qui avaient tout intérêt à rééquilibrer leurs relations. C'est peut-être aussi une façon de mesurer l'importance de l'alliance stratégique avec les États-Unis pour ces pays et de voir jusqu'à quel point ils sont prêts à payer le prix. Et puis n'oublions pas aussi le consommateur américain. Il va y avoir un effet sur le consommateur américain. Jusqu'où, encore une fois, le consommateur américain peut-il supporter ces augmentations?
Merci Jean-François Dimelio d'avoir été en ligne avec nous. Économiste, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut de recherche Asia Centre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Reportage en Turquie où plus de 300 manifestants de l'opposition sont toujours détenus, des militants arrêtés pendant les rassemblements ayant suivi l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. La grande majorité d'entre eux sont des étudiants, ils sont détenus dans de mauvaises conditions selon leurs avocats et ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Nos envoyés spéciaux, Daniel Valo et Bertrand Eclair, ont rencontré leurs proches à Istanbul.
Nafia Tanriverdi a les traits tirés malgré le maquillage. Depuis 10 jours et l'arrestation de son frère Baki, cette jeune comédienne n'a cessé de se battre pour lui venir en aide.
Après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, mon frère a rejoint les manifestants. Et ensuite, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. Nous avons pensé au pire des scénarios. Nous l'avons cherché partout, en allant dans les commissariats. Et finalement, nous l'avons trouvé à la fin du 2e jour. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit arrêté. Nous avons donc été très choqués.
Le jeune homme n'avait jamais participé à une manifestation de sa vie et il risque désormais de 6 mois à 3 années de prison. Sa vie a basculé comme celle de plus de 300 personnes arrêtées durant les manifestations. L'avocate Bedia Buryukebiz dénonce un abus de pouvoir et une procédure entachée d'illégalité.
Ils ont été arrêtés pour avoir refusé de se disperser à l'issue d'une manifestation non autorisée. Mais d'après la loi, ils ne devraient pas être incarcérés jusqu'à leur procès. Et pour nous, il s'agit d'arrestations illégales. La réalité, c'est que le gouvernement a peur des manifestations et ne veut pas qu'elles continuent. Il veut effrayer les étudiants et leurs parents en leur disant « Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans la rue, sinon on vous arrêtera. »
Une peur alimentée par les récits des mauvais traitements subis en détention, coups, insultes, humiliations. Une peur nourrie également par les arrestations au petit matin, au domicile des manifestants. Cette étudiante nous confie se réveiller tous les jours avec cette angoisse, voir débarquer les policiers à son domicile.
Comment la police trouve-t-elle les adresses? Eh bien, ils doivent scanner les images filmées pendant les manifs avec la reconnaissance faciale. Et nous, pour éviter ça, eh bien, nous avons trouvé la solution. Porter des masques.
Dans ce parc d'Istanbul, à l'écart des caméras, une poignée d'étudiants discutent de la conduite à tenir en cas d'interpellation. Ils échangent des conseils et des contacts d'avocats.
Oui, nous avons tous peur, en particulier les femmes, parce que nous avons vu et entendu que la police était particulièrement dure avec les femmes. Cela me fait peur, mais cela ne m'a pas empêché de rejoindre les manifestations. Je n'aurais pas pu rester chez moi à la maison sans rien faire. Il fallait nous battre pour notre avenir et contre l'injustice.
Car il n'est pas question d'abandonner la contestation. D'ailleurs, à la libération d'Ekrem İmamoğlu s'ajoute désormais une autre revendication. La remise en liberté des 300 personnes arrêtées durant les manifestations. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'appli RFI Pure Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour l'actualité africaine.
RFI, la sélection du mois. Oudi Costa et Sandalia Di Prada.
Ramenez tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour.
Ghislain N.
Ramenez tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent,
Anne-Cécile Bras.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la biodiversité sans jamais oser le demander. C'est ce que nous vous proposons avec l'écologue Franck Courchamp qui vient de donner sa première leçon inaugurale au Collège de France.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Avec une écriture furieuse, inventive, polyglotte, Max Loeb replonge dans son passé. Jeune homosexuel camerounais, rejeté par son père dans un pays où celui qu'il appelle Pumba règne de toute éternité. Son roman La danse des pères est le récit d'une émancipation.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.